Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 23h à Jérusalem, 22h à Paris, 21h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Au Proche-Orient, la libération des prisonniers palestiniens retardée par Israël. Le Hamas dénonce une violation de l'accord de trêve. 6 otages israéliens ont, eux, été relâchés aujourd'hui. Au Liban, des milliers de personnes ont déjà afflué vers la banlieue sud de Beyrouth. La communauté chiite libanaise se mobilise pour les funérailles d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, tué dans une frappe israélienne fin septembre. Les États-Unis proposent une résolution pour une fin rapide du conflit en Ukraine, un projet formulé de manière vague, très éloigné des précédents textes qui soutenaient clairement Kiev. En France, Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, ce samedi à Paris, une visite beaucoup moins chaotique que l'an dernier pour le président français. Le Hamas dénonce une violation flagrante de l'accord de trêve après la décision israélienne de retarder la libération de 602 prisonniers palestiniens. Le premier ministre israélien tient lui ce soir une réunion de sécurité. Benjamin Netanyahou qui a dit qu'il agirait avec fermeté afin de ramener tous les otages encore captifs dans la bande de Gaza. Un peu plus tôt ce samedi, ce sont donc 6 otages israéliens qui ont été libérés. Michel Paul.
Dernier des otages à recouvrer la liberté, Hicham Al-Sayed, un bédouin âgé de 36 ans, qui souffre de troubles psychiques. Il a été libéré dans la ville de Gaza après plus de 10 ans de captivité et avoir traversé la frontière de son plein gré. Et sa libération, contrairement à celle des autres otages, s'est faite sans la mise en scène organisée habituellement par les hommes du Hamas. En tout donc, 6 Israéliens ont été libérés aujourd'hui. 3 d'entre eux capturés lors du festival de musique Nova le 7 octobre 2023, 2 binationaux, israélo-argentin et israélo-autrichien, et également Avera Mengistu, un juif éthiopien, lui aussi en mauvaise santé mentale. Il s'était rendu spontanément il y a 11 ans à Gaza. Jeudi prochain, 4 otages qui ne sont plus en vie seront restitués à Israël, et d'après le décompte, parmi eux devrait se trouver le franco-israélien Oadi Alomi. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et dans la bande de Gaza, une nouvelle campagne de vaccination contre la polio a débuté ce samedi. L'opération doit permettre de vacciner près de 600 000 enfants de moins de 10 ans. 2 campagnes de vaccination avaient déjà été menées en fin d'année dernière. La polio, maladie très contagieuse, était réapparue pour la première fois depuis 20 ans. La situation humanitaire et sanitaire reste désastreuse dans l'enclave palestinienne ravagée par 15 mois de guerre. Au Liban, les funérailles d'Hassan Nasrallah doivent avoir lieu demain, dimanche, au sud de Beyrouth. Le chef du Hezbollah assassiné par l'armée israélienne il y a 5 mois maintenant. Un moment de recueillement, mais aussi une mobilisation par laquelle le mouvement armé devrait prouver le soutien dont il jouit encore, même affaibli après la récente guerre avec Israël. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes ont afflué. D'immenses embouteillages se sont déjà formés en raison de l'affluence, Laure Stéphane.
Des milliers de personnes ont convergé depuis la mi-journée vers le sud de Beyrouth en provenance de l'est et du sud du pays, arborant un drapeau du Hezbollah, portrait de Hassan Nasrallah. La communauté chiite se mobilise pour ses funérailles. C'est un moment pour faire le deuil, alors que certains n'ont longtemps pas voulu croire à la mort de l'ancien chef du Hezbollah. Un moment pour se retrouver après les souffrances de la guerre qui ont principalement visé les zones chiites du Liban. Un moment encore pour afficher une forte représentation alors que les chiites craignent aujourd'hui d'être isolés au Liban et sur le plan régional. Ces funérailles ne rassembleront ni cette seule communauté, ni seulement des Libanais. Des participants sont arrivés ces jours-ci d'Irak, d'Iran, du Koweït ou du Yémen. Dans la banlieue sud de Beyrouth, des lieux de prière ont été ouverts pour héberger ceux qui viennent de loin. Les derniers préparatifs se terminaient aujourd'hui pour la cérémonie qui se déroule à la cité sportive juste à la sortie de Beyrouth. Sur les routes alentours, partout, des posters géants de Hassan Nasrallah et d'autres responsables du Hezbollah tués au cours des derniers mois. Des foules se pressaient aujourd'hui sur le lieu où Hassan Nasrallah sera enterré, demain dans la banlieue sud, ou sur celui où il a été assassiné par Israël lors d'un gigantesque bombardement, un lieu de pèlerinage pour ses partisans depuis la fin de la guerre. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
Ce lundi marquera les 3 ans de l'invasion russe en Ukraine. Les États-Unis continuent, eux, de mettre la pression pour qu'un accord de paix soit conclu, mais sans Kiev ni les Européens à la table des négociations. Aux Nations Unies, Washington vient de déposer une résolution qui tranche avec les positions de l'Assemblée sur ce dossier, Loubna Anaki.
Le texte a été transmis vendredi aux 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Trois paragraphes, 65 mots à peine, pour un projet de résolution réclamant, je cite, « une fin rapide au conflit et une paix durable entre l'Ukraine et la Russie ». Les Américains insistent sur le fait que la mission principale de l'ONU est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde et de régler les conflits de façon pacifique. Le texte ne porte aucune mention à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui le place automatiquement en opposition à la position de Kiev et de ses alliés européens, ainsi qu'aux précédentes résolutions adoptées par les Nations unies. D'ailleurs, l'Ukraine et les Européens avaient eux aussi proposé un projet de résolution en prévision de la réunion de lundi à l'Assemblée. Un texte dont le langage a été certes atténué par rapport au précédent, évitant de critiquer directement la Russie, mais qui réclame toujours le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Le texte américain a été salué par l'ambassadeur russe à l'ONU. Ces deux projets de résolution reflètent les approches différentes adoptées par les Européens et les États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et la convention conservatrice Donald Trump affirme essayer de récupérer l'argent de l'aide américaine à l'Ukraine. Le président américain qui veut avoir un accès aux métaux rares ukrainiens. Mais son homologue Volodymyr Zelensky lui a opposé une fin de non-recevoir car ces conditions sont inacceptables pour Kiev. En Allemagne, les électeurs voteront demain pour les élections législatives, un scrutin dans un contexte de polarisation accentué par le soutien marqué de l'équipe de Donald Trump à l'extrême droite allemande. Les regards sont braqués notamment sur les réseaux sociaux. On observe un soutien du patron de X à l'AFD. Des campagnes d'influence russe favorisent le même parti. C'est le constat que dresse Chine Labbé. Elle est rédactrice en chef Europe de NewsGuard et dénonce ces manipulations.
On a repéré beaucoup de fausses informations autour du scrutin, autour de ces candidats, mais on a aussi repéré une opération de désinformation provenant de la Russie et d'un acteur que nous connaissons bien qui s'appelle John Mark Dugan, qui est un citoyen américain, ancien shérif adjoint de Floride, réfugié en Russie, devenu propagandiste du Kremlin, et qui a créé un réseau de 102 sites qui ressemblent à des sites d'information traditionnels allemands, dont certains d'ailleurs portent les noms de médias qui ont existé mais disparu, et qui utilisent l'IA générative pour générer des contenus, pas que des contenus faux, beaucoup de contenus polémiques, clivants, mais aussi pousser des faux récits qui peuvent s'appuyer sur des deepfakes ou sur même des vidéos mettant en scène de faux témoignages d'acteurs qui auraient été payés. Et on a déjà recensé 9 récits faux relayé par cet ensemble de sites qui vise surtout le parti écologiste, donc avec, semble-t-il, un objectif politique assez clair. Beaucoup de contenus sont très positifs sur l'AFD et pro-Russie et anti-Ukraine. Il y a un agenda politique qui est poussé.
Des propos recueillis par Sophie Malibaud. La plus grande ferme de France a ouvert ses portes aujourd'hui, le Salon de l'agriculture, où a déambulé le président français. Une journée beaucoup moins chaotique que l'an dernier pour Emmanuel Macron. L'édition 2024 avait été explosive entre huées et bousculades. Dans un contexte de grande colère des agriculteurs, Victorien Villaume, l'ambiance donc cette année a été plus sereine.
Certes, on a pu entendre quelques sifflets, des visiteurs critiquaient le président en le voyant passer, mais globalement, de nombreux échanges cordiaux et de nombreux curieux qui ont tenté également de se rapprocher du chef de l'État pour tenter de prendre tant bien que mal des vidéos. Ambiance plutôt sereine, même s'il faut le dire, les agriculteurs de leur côté ont tenu quand même à interpeller le chef de l'État et montrer leur inquiétude sur de nombreux sujets, installation des jeunes agriculteurs, renouvellement des générations, mais surtout des craintes au sujet de l'accord du Mercosur. Et le président a tenté de rassurer. Le chef de l'État redit que cet accord est un mauvais accord et il affirme aussi qu'il continue de chercher une minorité de blocage au sein de l'Union européenne. Pendant sa longue déambulation, le chef de l'État, entouré par un dispositif de sécurité important, est également allé voir les pêcheurs pour assister à une réunion. Une visite écourtée pour le président de la République compte tenu de l'attentat à Mulhouse.
Et Mulhouse, dans l'est de la France, où un homme a voulu s'en prendre aux forces de l'ordre. Un civil s'est interposé. Il est décédé de ses blessures. 3 policiers municipaux ont été grièvement blessés. Le parquet national antiterroriste est saisi de l'enquête. L'assaillant présumé était fiché pour prévention du terrorisme. RFI, 22h10 à Paris.